Merci d'écouter Europe 1 ce vendredi 8 février. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 8 février. Bonjour Céline Kadman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin,
Céline. Le corps repêché dans la Manche est bien celui d'Emiliano Sala, l'ex-attaquant du FC Nantes, victime d'un accident d'avion le 21 janvier dernier. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements dans le cadre du grand débat. Hier en Bourgogne, le chef de l'État a rencontré des centaines de jeunes avec lesquels il a discuté pendant plus de 4 heures. Revaloriser le rôle de la médecine scolaire, deux professionnels publient une tribune aujourd'hui pour rappeler leur rôle essentiel. Europe 1. La douleur pour les proches d'Emiliano Sala qui vont pouvoir organiser au plus vite les obsèques. Le corps repêché au nord de Guernesey hier est bien celui du footballeur argentin Anaïs Cordoba.
Son identification va permettre désormais aux enquêteurs de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Pour cela, ils vont se servir des nombreuses images de l'épave prises par les robots sous-marins. Les mauvaises conditions météorologiques empêchent en effet de repêcher la carcasse du Piper Malibu. Seule piste connue aujourd'hui, une éventuelle défaillance de l'avion. Dans ses derniers messages, Emiliano Sala avait fait part de la crainte que lui inspiraient les bruits de l'appareil. Un premier rapport d'enquête intérimaire doit être publié d'ici le 21 février par la police britannique. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Le corps de David Ibbotson, le pilote, n'a pas encore été retrouvé. Les autorités réfléchissent toujours à la perspective de remonter l'épave de l'avion. L'affaire Benalla a chaque jour ses révélations et ses conséquences. La chef du groupe de sécurité de Matignon a démissionné en fin de journée hier afin d'écarter toute polémique. Son compagnon, un militaire, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions avec effet immédiat. Par ailleurs, le parquet national financier a ouvert une enquête sur le contrat signé avec un oligarque russe, contrat qu'Alexandre Benalla est soupçonné d'avoir négocié. Et puis c'est ce matin, devant le tribunal correctionnel de Paris, que le couple malmené par Alexandre Benalla le 1er mai à Paris est jugé pour avoir jeté des projectiles sur des CRS.
Emmanuel Macron a échangé plus de 4 heures avec des centaines de jeunes de 15 à 25 ans hier en Bourgogne.
Objectif du chef de l'État, intéresser et impliquer les jeunes dans le grand débat. Le président de la République a admis que les citoyens avaient besoin de s'exprimer plus directement, mais qu'il fallait encore trouver le bon mécanisme. Le référendum ne règle pas tout, a-t-il dit, interrogé notamment à propos du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Écoutez la réaction de Loïs, 19 ans, qui a trouvé cet échange fructueux.
Je suis agréablement surpris parce qu'il a répondu vraiment à toutes les questions qui lui avaient été posées. Et c'est important, je trouve, que pour nous, les jeunes, on réponde à nos problématiques, qu'on ne s'occupe pas que des retraités, que des gens qui sont dans la vie active. On a aussi notre mot à dire. On ne nous a pas appris qu'à l'école à lever la main et à poser une question. On nous a aussi appris à débattre. Et je trouve c'est important qu'ils nous écoutent, qu'ils répondent à nos questions et surtout à nos problématiques. Je trouve ça super bien qu'il ait fait ce débat. Il a été assez proche de son public. Il n'a pas du tout été distant et hautain comme on peut le décrire dans la presse. Il a été très convaincant, c'est un bon orateur et personnellement il m'a convaincu. Ce qu'il a dit tout au long de cette journée, c'était super intéressant et ça nous a apporté beaucoup.
Loïs, ce micro de Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. On reste justement dans le cadre scolaire avec une tribune aujourd'hui dans le Huffington Post, tribune publiée par deux députés médecins pour rappeler le rôle essentiel des médecins scolaires qui manquent de moyens et dont on ne connaît pas assez le rôle. Ils portent d'ailleurs un amendement à la loi pour une école de la confiance qui sera examinée à l'Assemblée nationale à partir de mardi prochain. Virginie Salmen.
Plus de la moitié des médecins scolaires ont disparu en 10 ans. Il y a des départements où il n'en reste plus aucun. Pourtant, ils dépistent des troubles qu'aucun autre médecin ne s'est repéré. Ils ont une formation unique de médecins et de spécialistes de l'école. Marie-Tamarelle Vérague, la députée à l'origine de l'amendement, en sait quelque chose. Elle est elle-même médecin scolaire. En auscultant les élèves, elle mesure à la fois l'ouïe et les notions de lecture.
On va dire aux enfants, par exemple, tambour. Et on va lui dire, tu vas frapper à chaque fois que tu entends une syllabe. Donc, tambour, vous voyez, deux syllabes. Après, on va augmenter, on va dire, maintenant, tu vas taper pour trottinette. Donc, trottinette. Et donc, en faisant ce type d'exercice, on voit déjà si l'enfant, la syllabe dans son oreille, il en a conscience.
Et ça permet d'éviter à des élèves de s'enfoncer dans l'échec scolaire. Alors l'ambition de cette députée, c'est de créer un vrai service médical complet pour les enfants à partir de 3 ans, avec les infirmières scolaires, les médecins et puis les psychologues. Pour ça, il faudrait que les médecins soient reconnus aussi par le ministère de la Santé, qui pourrait gérer avec le ministère de l'Éducation nationale les lignes budgétaires existantes existante, mais non dépensée, faute de candidat.
Virginie Salmen pour Europe 1. Le conseil municipal de Tourcoing a élu son nouveau maire, Jean-Marie Wulstecker, 75 ans, qui succède à Didier Drouard, décédé fin janvier. Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, conserve son poste de premier adjoint.
Je sais que ça vous tient à cœur, Céline. Les Victoires de la Musique, c'est ce soir, 34e édition.
C'est vrai, et c'est en direct de la scène musicale à Boulogne, près de Paris, avec parmi les favoris, Clara Luciani, en lice pour la révélation scène. Elle a beaucoup tourné avec son premier album Sainte Victoire, comme elle l'a confié à Diane Chénouda.
J'ai fait beaucoup de concerts cette année, ça c'est sûr. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé 3 jours chez moi cette année. Et je suis hyper heureuse de voir que ça a un peu payé, quoi.
C'est un bonheur pour vous de jouer sur scène ?
Immense. C'est plus qu'un bonheur, c'est une nécessité. Ouais, c'est devenu complètement addictif. C'est très fort, il y a quelque chose de la... En tout cas, moi je le vis comme ça, comme une sorte de communion, quoi. Déjà, de pouvoir chanter une chanson à la télévision, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'émissions qui permettent ça, surtout à des jeunes artistes comme moi. Et du coup, en soi, c'est déjà une victoire de pouvoir faire ça. Il ne faut pas être trop gourmand. Mais bon, évidemment, une victoire de plus, c'est encore mieux.
Vous savez quoi, ça nous a donné envie. Je crois que dans 10 minutes, on va écouter une chanson entière de Clara Luciani.
Ah, la chance. Ouais,
mais c'est comme ça. On est comme ça, on est réactif sur Europe. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, certes, le week-end va être long sans se voir. Mais il faut positiver en se projetant sur les événements qui nous attendent la semaine prochaine.
Mathieu, je me pose une petite question. Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ?
Bon, déjà, tutoie moi, hein, c'est ridicule. Et oui, j'ai pensé à quelque chose. Je me disais qu'un menu spécial Hippo Lovers à l'Hippopotamus de la Porte de Bagnolet pourrait être un moment assez magique.
Ah, je suis, mais alors totalement fan.
Ah, je savais que t'étais une femme de goût.
J'ai une histoire sur
l'hippopotamus,
mais bref.
Vous nous la raconterez en antenne et je la
diffuserai. 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique et aujourd'hui c'est même paranormal. Attention, ils arrivent. Une femme dans le Nord dit en tout cas avoir vu une soucoupe volante. Alors, à quoi ressembleront-ils ? Aux aliens d'Independence Day ou à Jacques Villeray dans La Soupe aux Choux ? En tout cas, les extraterrestres fascinent depuis longtemps. Fabrice Almeida revient sur cette fascination historique.
Il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
Oui, l'heure d'un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Un ciel couvert sur l'ensemble du pays.
C'est vrai, couvert et faiblement pluvieux pour la moitié nord, en tout cas avec du vent. Des pluies qui deviendront soutenues entre la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Pour la moitié sud, là, le ciel va rester voilé toute la journée. Un petit peu plus lumineux des Landes jusqu'aux Alpes. Le tout sous des températures encore très douces puisque la moyenne ira de 8 à 16 degrés du nord au sud cet après-midi. L'on fera 11 à Paris et 17 du côté de Biarritz.
Merci Céline. Eva Rock.
Si j'allume mon micro, c'est encore mieux. C'est vous bien. Savez que c'est les Victoires de la Musique ce soir. Et on vous a demandé depuis 5h ce matin quel artiste vous a marqué ces derniers temps, quelle chanson tourne en boucle chez vous, bref, à qui vous avez envie d'attribuer une victoire. Eh bien, Michel.
Angèle,
oui, beaucoup d'auditeurs.
Ouais. Non, mais je l'ai déjà dit.
Clara Luciani revient souvent aussi, hein, je vous le dis. Caroline nous dit si je pose la question à mes enfants, ils vont dire 3 cafés gourmands ou Chantal Goya. Mais pour moi, c'est Brahms, Chopin et Ravel. Ça va être compliqué, Caroline, pour leur remettre une victoire quand même. Hein. DLM72 nous dit l'impératrice et l'album Matahari que je vous recommande 1000 fois, moi aussi. Et puis Quentin nous dit c'est l'album de reprise de Véronique Sanson et notamment son duo avec Vianney qu'on a déjà diffusé dans cette émission avec Chanson sur ma drôle de vie. Voilà, vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous a rejoint dans ce studio, il est jeune, il est beau, il est sportif, vous l'avez reconnu évidemment.
C'est le fils de Stéphanie de Monaco.
Mais non, c'est vous, Jérôme Lacroix, pour le Journal des Sports. Faut avoir un peu confiance en vous, mon vieux. Hein. Alors, à la une du Journal des Sports ce matin, une question, Jérôme.
Eh oui.
Quels ingrédients pour le crunch ? C'est une très bonne question.
Le crunch, le surnom surnom des confrontations rugby entre Anglais et Français, les matchs qui croustillent souvent le moment crucial du tournoi à destination, c'est pour ça qu'on surnomme ces rencontres crunch. C'est dimanche à Twickenham. Alors, quels ingrédients ? On va le savoir ce matin avec l'annonce de l'équipe titulaire côté bleu qui va démarrer cette rencontre. Et on pourrait bien voir dans la ligne des trois quarts le retour de Mathieu Bastaro qui avait été écarté au premier match. Toute la semaine en préparation, les Français coéquipiers de Camille Lopez ont tenté de garder confiance et d'oublier la défaite paranormale face aux Gallois.
On croit en nous parce que quand vous voyez la première mi-temps qu'on est capable de faire, si on ne donne pas autant de points et si on est un peu plus appliqué pendant 80 minutes et non pas 40, le résultat aurait été tout autre vendredi. Donc voilà, on est forcément à la recherche d'une victoire qui, je l'espère, lancera une autre dynamique parce que voilà, on en a besoin.
Des propos recueillis par Malo Flancard pour Europe 1 vers 10h, annonce de l'équipe pour ce Angleterre-France, donc deuxième match du tournoi Destination. La rencontre, c'est dimanche 16h. Ce sera juste après les filles qui, elles, jouent à 13h45.
Le foot, Jérôme, et se déchaîner pour enchaîner, titre ce matin le journal La Provence.
Le quotidien appelle les joueurs de l'OM à se lâcher et surtout à empiler les victoires. Alors, ils sont ce matin 7e du classement de Ligue 1 à 9 points du podium. C'est l'objectif de fin de saison, hein, le podium. Et après une victoire cette semaine contre Bordeaux, les hommes de l'entraîneur Rudy Garcia entendent enchaîner à Dijon ce soir, levée de rideau de la 24e journée.
D'abord, il faut enclencher une série. C'est ce qu'on a fait contre Bordeaux. On a gagné, mais c'est pas suffisant. La série, il faut la continuer. Donc, Dijon, c'est une équipe difficile à jouer. Sur son terrain, là, de l'enthousiasme.
Dijon, Marseille, coup d'envoi, 20h45.
Les Lyonnais, derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France.
Victoire 2-1 à Guingamp. Ils recevront Caen fin février pour une place en demi-finale. Et puis ce chiffre, 3 060 000 euros, le salaire brut mensuel de Neymar au PSG, selon les estimations du journal L'Équipe ce matin. Le Brésilien, largement joueur le mieux payé de France, devant Mbappé qui émargerait à 1 730 000 euros brut mensuel. 13 des 15 plus gros salaires de Ligue 1 sont des joueurs du PSG. Le PSG justement met en handball, retour de la Ligue des Champions messieurs hier soir et choc franco-français au premier tour. Victoire parisienne 35-31 à Nantes. Les Parisiens premiers provisoires du groupe en bonne position pour accéder au quart de finale. Ça reste possible, mais ce sera plus compliqué pour des Nantais quatrièmes.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Les deux Corées se rapprochent toujours plus sur les terrains de sport après le défilé sous un drapeau unique au JO d'hiver 2018, après l'équipe unifiée de handball au dernier mondial masculin. On pourrait voir une nouvelle équipe unifiée au JO d'été l'année prochaine à Tokyo. Une rencontre entre le Nord, le Sud et des représentants du Comité international olympique doit avoir lieu en ce sens vendredi prochain en Suisse.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, quand même, il y a un moment, je ne peux plus vous couvrir tout le temps. Quand comptez-vous avouer Céline Dacosta, que vous êtes mariée, que vous avez des enfants?
Je lui dirai la vérité lorsqu'elle rentrera à l'université.
Ah oui, non, ça nous laisse encore un peu de temps. Alors bon, on passe à la chronique histoire. Voici venir Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Un article de la Voix du Nord a retenu votre attention hier. Une habitante de la petite commune d'Eppe Sauvage, dans le Nord, donc, aurait vu et photographié une soucoupe volante. Mais ça fait longtemps que l'on parle des extraterrestres en France.
Ben oui, le premier à avoir imaginé une rencontre avec des extraterrestres est un écrivain, Cyrano de Bergerac. Le modèle, vous vous souvenez d'Edmond Rostand, incarné par Depardieu à l'écran. Mais à l'époque, au XVIIe siècle, on connaissait à peine la mécanique céleste. Cyrano a écrit donc en 1657 l'histoire comique des États et empires de la Lune, parfois appelé le voyage dans la Lune.
Et il y parle d'extraterrestres.
Il évoque des hommes célèbres au départ dans ce paradis et ensuite de vrais extraterrestres venus du Soleil. Bon, en gros, ils ressemblent à des hommes, sauf qu'ils vivent un peu plus longtemps et qu'ils ont des qualités physiques différentes. Et après lui, donc, d'autres ont creusé la veine et popularisé l'idée que les planètes du système solaire étaient habitées. Fontenelle, en 1686, par exemple, dans les entretiens sur la pluralité du monde, disait qu'il y avait des habitants sur la Lune, mais aussi sur Vénus ou sur Mars, et qu'aller à leur rencontre, eh bien, en gros, revenait à voyager entre Amérique et Europe. Tous ont inspiré Jules Verne, mais Jules Verne, vous vous souvenez, qui va jusque sur la Lune, ces héros ne descendent pas sur la Lune, donc ils ne rencontrent pas d'extraterrestres.
Mais l'image des soucoupes volantes, elle, est plus récente.
Beaucoup plus récente. Elle remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors certains y voient le fruit du traumatisme des fusées V2 lancées par les nazis, la peur des missiles sublimés en soucoupes volantes, car les photographies des ovnis ont commencé seulement alors, tandis qu'on avait des appareils photographiques depuis pratiquement plus d'un siècle. Mmh. Le nouvel épisode d'Eppe Sauvage s'inscrit donc dans cette histoire longue de l'ufologie entre observation et imagination.
L'ufologie. Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1.
Et 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à 6h20, la veille d'un grand week-end de promotion du sport féminin dans les médias. On recevra Anne-Sophie de Christophe, ex-patineuse artistique, aujourd'hui directrice des sports de TF1. Ça sera donc la rencontre au sommet entre deux ex-championnes, une vraie, notre invitée, et une mytho, Eva Roque.
J'ai fait de la compétition, mon cher Mathieu. Surtout de l'athlétisme. Mais bien sûr, j'étais dans les meilleures françaises.
Mais oui, et moi une fois j'ai écœuré Usain Bolt sur 400 mètres, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est rabattu sur 100 et 200. Comme ça il avait des chances. Allez, écoutons plutôt une vraie chanteuse, Clara Luciani, La Grenade sur Europe 1.
5h, 7h, Mathieu Noël sur Europe 1.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui
je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein là.
Clara Luciani, La Grenade sur Europe 1. Clara Luciani qui sera au Vieille Charrue du 18 au 21 juillet. Et loin de moi l'idée de penser que je vous apporte cette précision essentielle juste parce que le Festival des Vieilles Charrues est un événement Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire en compagnie d'invités toujours passionnants, mais au nom pas toujours facile à prononcer. Comme hier, heureusement, en cas de doute, je peux compter sur l'efficacité de mes collègues Eva Rock et Céline Acosta.
Est-ce que tu peux aller voir pour qu'on connaisse la prononciation de notre invité? Est-ce que c'est Jérôme Tarting ou Tartin?
Comme Parpin, on dit pas le G. Tartin, Parpin, Parpin, Tartin. On dit pas Tarting.
À 6h20, pas de difficulté majeure aujourd'hui. À la veille d'un grand week-end de promotion du sport féminin dans les médias, on recevra Anne-Sophie de Christophe, ex-patineuse artistique, aujourd'hui directrice des sports de TF.
Il est 6h18. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Il n'y a plus de doute, Emiliano Sala est mort. Le corps récupéré dans l'épave de l'avion est bien celui de l'ancien footballeur de Nantes. Il a été identifié, aucune trace du pilote pour l'instant. Emmanuel Macron a appelé les jeunes à se saisir du grand débat hier. 4h30 d'échange avec un millier de lycéens, étudiants ou apprentis en Saône-et-Loire. Il a beaucoup été question du harcèlement, mais aussi du prix des études. Enfin, début des vacances pour les écoliers de la zone B ce soir. Aix, Marseille, Amiens. Notez que la SNCF attend 13 millions de voyageurs pendant toute la durée des vacances d'hiver qui s'étalent jusqu'au 10 mars.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 8 février. L'actualité, c'est aussi l'opération Sport Féminin. Toujours ce week-end, de nombreux médias proposeront des reportages et des compétitions pour mettre en avant les femmes dans le sport. Bonjour Anne-Sophie de Christophe.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous avez été triple championne de France de patinage artistique et vous dirigez aujourd'hui la rédaction sport du groupe TF1-LCI. Premièrement, est-ce que vous trouvez normal qu'en 2019, on en soit encore à devoir créer un week-end pour valoriser le sport féminin dans les médias?
Non, mais s'il faut en passer par là, il faut le faire.
C'est ce que vous avez... Donc vous participez à cette opération. Il y a quand même eu un changement des mentalités ces dernières années. Où c'est une vue de l'esprit où, moi, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de sport féminin, qu'il est mieux couvert qu'avant.
Oui, clairement, clairement. Et puis on peut se l'attribuer ici à TF1 parce que c'est vrai que cette année, on va vraiment avoir 4 événements majeurs sur les antennes de TF1.
Qui sont ?
Alors là, il y a eu les championnats du monde de handball, et puis il y aura la Coupe du monde de rugby au mois de septembre au Japon. Mais on a la parité puisqu'on va avoir aussi les championnats du monde de handball fin de l'année et surtout la Coupe du monde de foot féminine qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Et TF1 avait acquis les droits, non pas hier, mais déjà en 2015. Donc déjà en 2015, on avait cette envie de promouvoir le sport féminin et on est ravis parce que je pense que c'est l'heure. C'est l'heure à un moment de s'attacher, nous, chaîne leader, majeur, un événement majeur qui va fédérer les Français et les Françaises, d'autant que l'équipe de France de foot féminine est plutôt performante puisqu'elle est troisième meilleure nation mondiale et qu'elle a récemment battu les tenantes du titre, les Américaines au Havre.
Alors, j'imagine que comme tous les médias à TF1, vous faites des enquêtes auprès de vos téléspectateurs pour savoir ce qu'ils ont envie de voir. Est-ce que vous constatez qu'il y a une demande pour le sport féminin ou c'est plutôt une volonté de votre part ? Est-ce qu'il existe une demande pour le sport féminin à la télé aujourd'hui ?
Mais clairement, de toute façon, le téléspectateur, il est toujours en demande, surtout de visibilité, de gens qu'on considère parfois un petit peu cachés. Après, on est quand même aussi une chaîne qui doit faire de l'audience, donc ça sera aussi à nous de faire en sorte que le foot féminin soit regardé de la même façon, avec la même attraction que les hommes. Donc ça, c'est effectivement tout un travail qu'on s'emploie à faire dès maintenant, en participant justement à ce week-end pour promouvoir le sport féminin. Et on va justement teinter notre antenne aussi bien dans Téléfoot que dans les JT, que dans 20h le Mag ce soir, où il y aura un formidable portrait sur une femme arbitre de hockey sur glace sur féminin. Donc c'est cette petite musique qu'il faut absolument distiller sur nos antennes jusqu'au 7 juin. Et c'est vrai que jusqu'au 7 juin, notre grand enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que cette équipe de foot féminine, elle soit tout petit peu plus connu, parce que c'est vrai que le Kylian Mbappé du foot tout féminin, je suis sûr qu'il existe, hein, mais personne ne le connaît encore. Mais vraiment, nous, on va s'y employer et je pense qu'on a la maturité aujourd'hui pour se dire, on a vraiment envie de voir des visages nouveaux, on en a un petit peu marre de voir toujours les mêmes.
Est-ce qu'en 2015, quand vous avez acquis les droits pour la Coupe du Monde de foot féminine, il y avait beaucoup de concurrence de la part des autres chaînes françaises ?
Ah oui, clairement. Oui, parce
déjà en 2015.
Oui, parce que c'est vrai que nos concurrents, que ce soit le groupe M6, que ce soit effectivement des chaînes privées, etc., il y a quand même, parce que c'est moins cher. C'est moins cher, donc il y a une attraction, il y a tout un schéma économique entre effectivement ce que ça nous coûte, ce que ça peut nous rapporter et l'audience. Il y a forcément un cercle vertueux qui permet aussi de dire, voilà, cet événement majeur qui aura lieu en France, c'est dans 9 villes en France. Les premiers packages ont été vendus, les Américains se sont jetés dessus. Donc franchement, ça va être un événement considérable en France. Donc on savait ce truc-là et rendons hommage à François Pélissier qui est directeur des acquisitions et directeur des sports, avoir eu le flair et avoir eu la vista pour acquérir ses droits.
En termes d'audience, ça marche comment le sport féminin ? La finale, par exemple, du hand que les Françaises ont remporté, ça a fait une bonne audience ?
Oui, ça a fait 5 millions, donc on était ravis, quoi.
Ah oui.
5 millions de moyenne, et au moment du titre, c'est encore supérieur. Donc, franchement, c'est un peu en deçà, mais par rapport au hand masculin. Mais franchement, on est ravis d'avoir ce type d'audience. Et puis surtout, c'est la France qui gagne, c'est l'événement, et c'est l'ADN pur de TF1.
Il faudrait pour vous que l'équipe de France féminine gagne aussi.
Mais en général, on porte chance.
Vous portez chance,
ouais,
c'est vrai.
Bah, c'est vrai.
Oui, c'est on l'a vu effectivement avec les bleus, les bleus masculins. Vous avez été athlète de haut niveau, il y a toujours eu des inégalités hommes-femmes dans le sport, et j'imagine dans le patinage artistique. Il y a eu récemment des polémiques sur la tenue des joueuses de tennis, assez incroyable. Et vous vivez comment ce genre de polémique ? C'était Serena Williams qui avait été critiquée pour sa tenue, qui était pourtant une tenue qui était médicalement conseillée pour elle. Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours deux poids, deux mesures dans le sport entre les hommes et les femmes ?
Oui, je pense qu'on s'attarde plus volontiers sur effectivement une tenue féminine que sur éventuellement à l'époque. Ceci dit, rappelez-vous...
Mais c'est fou ça !
Rappelez-vous en même temps Agassi quand il a commencé à mettre des t-shirts qui étaient bariolés, etc. Donc c'est vrai que ce qui change, etc. Ce qui est différent chez les femmes, c'est que forcément c'est éventuellement le sex appeal qui se dégage d'une femme et qu'on va tout de suite remettre en cause et susciter effectivement quelque chose qui serait pas normal, quoi.
Ouais.
Donc c'est ça qu'on va aller titiller. Je trouve qu'en même temps il faut avancer, quoi.
Parce qu'il faut oublier cette polémique, mais bon.
Oui, en même temps, elles sont là.
La traiter. Est-ce que vous sensibilisez les commentateurs, pour éviter des types de remarques sexistes ou des choses qui pourraient encore exister dans le commentaire sportif ? Est-ce que ça, vous avez besoin de le faire ou aujourd'hui, les mentalités ont suffisamment évolué et il n'y a plus de réflexion un petit peu sexiste ?
Moi, je pense qu'il faut être vigilant. Les mentalités ont plutôt évolué. C'est vrai que là, en l'occurrence, c'est Grégoire Margoton et Bichette Lizarazu qui vont commenter le foot féminin parce que justement, on a tenu à ce que il y ait la parité. Il n'y a pas de raison de faire un nouveau binôme de commentateurs parce que ce seraient des femmes.
Oui.
Donc, on estime que ce sont les meilleurs et ce seront les meilleurs aussi pour commenter les femmes. Donc, je pense que ils sauront le faire, quoi.
Pour la suite de votre carrière, j'ai un conseil. Pourquoi pas une grande fédération sportive ? Il y a peu de femmes dans les grandes fédérations sportives.
Oui, je crois qu'il y en a deux.
Voilà, tout simplement. Comme ça aussi,
c'est un. Et dans les médias, pareil. Vous êtes la seule à avoir un poste à sa responsabilité à ce niveau-là. Hein,
oui,
la seule femme. Oui.
C'est
vrai. Comment vous l'expliquez ?
Bah, parce que je pense que. Mais je pense que c'est un peu partout. Regardez, quand on cherche des expertes police ou des expertes justice, il y en a aussi très, très peu. Alors, il y a aussi très peu de femmes dans les écoles de journalisme qui veulent devenir journaliste sportif. Donc, il y a tout un chemin pédagogique à faire et en même temps aller les chercher parce qu'elles sont souvent expertes, elles sont souvent compétentes, mais pour X raisons, elles se sentent rarement légitimes. Alors qu'un homme, il dira toujours oui, alors qu'il n'est pas toujours au niveau. Eh ben, une femme, elle dira ouais, non, mais je vais y réfléchir. Et puis, alors qu'au départ, elle a exactement les mêmes compétences qu'un homme, mais bon, on est fait un peu différemment. Et en même temps, on a certainement un peu plus de doutes, donc il faut oser, il faut y aller, il faut y aller.
C'est le message que vous donnez ce matin au micro d'Europe 1. Merci Anne-Sophie de Christophe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice des sports de TF1. À l'occasion de cette opération sport féminin toujours, Philippe Vandel recevra demain soir la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. À nous.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de François Geffrier. La météo revient et la douceur persiste. Avant de retrouver le journal de 6h30, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore de la pluie, m'annoncez-vous.
Oui, de faibles averses ce matin pour toute la moitié nord et puis en descendant vers le Poitou-Charentes avec du vent, 60 km/h dans les terres, 80 près des côtes. Pour la moitié sud, là aussi le scénario est simple, un ciel nuageux, plus lumineux des Landes jusqu'en Méditerranée, un voile assez dense qui va persister toute la journée. Il n'y aura pas beaucoup de changements pour cet après-midi, si ce n'est que les pluies seront plus soutenues que ce matin en fin de journée entre la Bretagne et le Cotentin. Les températures toujours douce, hein, 8 à 11 degrés sur la moitié nord pour cet après-midi, 10 à 17 pour la moitié sud.
Un mot du week-end,
oui,
peut-être.
Oui, assez agité, hein, avec samedi, ciel partagé entre nuages éclaircis, averses et vents, plus calme et lumineux entre les Landes et les Alpes. Dimanche, on aura toujours ce ciel mitigé. Puis une nouvelle perturbation va porter des averses qui seront là un petit peu plus soutenues entre le sud-ouest et le nord-est. Tout ça sous des températures qui sont toujours douces. Elles vont commencer à baisser, je vous le disais tout à l'heure, dès lundi. On repassera dans le négatif à partir de mercredi prochain.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures destinées à vous mettre en joie, mais également à vous informer de la manière la plus rigoureuse qui soit, ce qui est chose faite chaque matin avec le trio magique qui m'entoure. La précision des baroques.
C'est-à-dire que le néonazisme déislamisait les Pays-Bas.
Les interventions toujours pertinentes de Céline Dacosta.
Tu vas voir que... voilà.
Sans oublier la fluidité de Jérôme Lacroix.
Oui, alors j'ai perdu mon texte, alors du coup je vais...
On peut, je crois, parler de triplettes magiques. Heureusement, on peut aussi compter sur les trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos experts vous donnent les clés pour vous forger votre vision de l'actu. Au programme notamment ce matin, le ton qui monte entre la France et l'Italie suite à la rencontre entre un ministre italien et des gilets jaunes.
À vous écouter Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Il roule sans assurance et coûte de plus en plus cher au fonds de garantie qui avance les indemnisations. Information Europe 1 sur ces 750 000 conducteurs qui ne respectent pas la loi. Le procès d'une violence qui en a entraîné une autre. Deux jeunes qui s'en étaient pris à des policiers avant d'être molestés par Alexandre Benalla sont aujourd'hui devant la justice. Et puis une bonne idée pour se réadapter à la vie chez soi quand on sort de l'hôpital. Le CHU de Poitiers a fait construire une vraie maison dans ses propres murs.
Europe 1.
Ils sont environ 750 000 en France, les conducteurs qui roulent sans assurance, c'est pourtant obligatoire. Et information Europe 1, le coût qu'ils font supporter à la société est de plus en plus élevé. Le fonds de garantie qui avance les indemnisations a du mal à suivre les précisions d'Aude Leroy.
En 5 ans, le nombre de victimes de conducteurs sans assurance a progressé de près de 10%. Et l'an dernier, cela a représenté 26 000 dossiers indemnisés par le fonds de garantie. Emmanuel est justement en train de payer sa dette. Il y a 8 ans, ce commercial qui a perdu permis et assurance renverse en voiture une personne à mobylette. La victime se retrouve avec un bras cassé et le conducteur doit alors payer de sa poche.
Ça m'a coûté pratiquement 9 000 euros.
Depuis que j'avais perdu mon travail et même mon logement, ça a été compliqué pendant un an. J'étais chez moi parce que je pouvais rien faire parce que du coup j'avais plus de permis. Quand on a plus de permis, ça peut aller très vite, quoi.
À l'origine de la non-assurance, il y a de la négligence, de la délinquance ou encore plus souvent trop peu d'argent sur le compte en banque. Sauf que parallèlement, le coût des indemnisations ne cesse d'augmenter. 150 millions d'euros l'an dernier, explique Julien Renski du Fonds de garantie.
Mais les montants d'indemnisation progressent parce que la médecine progresse, parce que les prothèses sont meilleures et plus coûteuses, parce que l'espérance de vie progresse, donc c'est des bonnes nouvelles pour les victimes, mais ça se traduit par des coûts qui augmentent.
Pour diminuer le nombre de conducteurs non assurés, dont presque la moitié ont moins de 35 ans, les experts réfléchissent aujourd'hui, par exemple, à la création d'un chèque assurance auto sur le modèle du chèque énergie.
Les informations d'Europe 1 d'Aude Leroy. Un millier de jeunes dans un gymnase, qui n'était pas là pour applaudir une équipe de basket, mais pour débattre avec le président de la République à Étang-sur-Arroux, en Saône-et-Loire. 4h30 d'échange, plutôt sage, voire sérieux au début, mais il y a eu aussi quelques moments marquants, comme cet échange avec un jeune en situation de handicap.
Malgré mon handicap qui est la dyslexie, j'avance dans la vie et en me donnant des objectifs et en me forgeant un mental. Depuis mon enfance, la nature, les enfants, le sport ont été pour moi des échappatoires. À travers le sport, pour moi, la natation, le triathlon, je pense avoir acquis des valeurs qui me sont aujourd'hui très chères, comme le dépassement de soi. Mais aussi le respect des autres, de l'adversaire, la solidarité, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort, la persévérance.
Il n'y a rien à dire, si ce n'est que vous avez rendu le plus bel hommage à ce qu'est l'école de la République et la volonté. Et merci pour ça.
Emmanuel Macron hier en Saône-et-Loire avec Jean-Rémy Baudot d'Europe 1. Une brouille diplomatique entre la France et l'Italie. L'ambassadeur français à Rome a été rappelé à Paris après une série de déclarations outrancières de responsables italiens selon le ministère des Affaires étrangères. Nous ne voulons nous fâcher avec personne, a répondu ensuite Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Et puis c'est aujourd'hui que commence la destruction de ce qui reste du pont Morandi, ce viaduc d'autoroute au-dessus de la ville de Gênes. 43 morts cet été dans son effondrement. Les opérations vont durer 6 mois avant la construction d'un nouveau pont par l'architecte Renzo Piano. C'était le feuilleton politique de la semaine dernière. Gérald Darmanin allait-il démissionner du gouvernement pour reprendre son fauteuil de maire de Tourcoing après la mort de Didier Drouhard ? Au bout du suspense, le ministre est resté ministre et c'est un militant gaulliste de la ville qui a été élu par le conseil municipal, un maire qui s'appelle Jean-Marie Wuilstecker. Pour Europe 1, Lionel Gougelot était à Tourcoing hier soir.
Après un dernier hommage au maire décédé, Gérald Darmanin, premier adjoint, propose lui-même le nom de celui qui sera candidat au poste de maire. Élection à main levée, le doyen des élus proclame le résultat.
Je déclare Jean-Marie Wuilstecker, maire de Tourcoing.
Élu ici depuis 48 ans, Jean-Marie Wuilstecker sera chargé de tenir la mairie de Tourcoing en attendant le retour du ministre.
Oui, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite hein, et qu'on nous souhaite parce que c'est un animateur dynamique et qui a un foisonnement au niveau des idées qui nous est bien précieux.
D'ailleurs, pour l'élu communiste d'opposition, Dominique de Clerdanel, le vrai patron est et restera Gérald Darmanin.
Monsieur le ministre Darmanin, évidemment, gère en étroite coopération la ville de Tourcoing avec le maire comme il l'a fait avec Monsieur Drouhard. Donc rien ne se fait sans son accord. Monsieur Wuilstecker garde la place au chaud.
Ce qui ne semble pas d'ailleurs choquer autre mesure, les partisans du ministre premier adjoint.
Ça ne nous gêne pas du tout, non, c'est bien comme ça.
C'est un intérim, de toute façon ça a toujours été vu comme ça, que pour moi Gérald va revenir.
Revenir à Tourcoing comme candidat à la mairie, mais pas seulement, Gérald Darmanin ne cache pas son ambition de prendre la présidence de la métropole de Lille après les municipales. À Tourcoing, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puisqu'on parle du ministre Gérald Darmanin, 2 sondages publiés aujourd'hui devraient lui faire passer plutôt une bonne journée. Les 3/4 des Français se disent favorables au prélèvement de l'impôt à la source. En même temps, ça tombe bien puisque la réforme est déjà en vigueur depuis un peu plus d'un mois. Un résultat d'une enquête BVA pour la Tribune et d'une étude Elab pour les Échos. À suivre dans ce journal, un procès pour violence envers des policiers. Les 2 jeunes qu'Alexandre Benalla avait molestés le 1er mai dernier sont aujourd'hui devant la justice. A tout de suite.
Il est 6h36.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal François Geffrier avec ce procès qui démarre aujourd'hui, c'est celui d'un couple, Georgios et Chloé. Oui, c'est par eux que tout a commencé dans l'affaire Benalla. Ces 2 jeunes gens avaient été vigoureusement interpellés, voire molestés par Alexandre Benalla le 1er mai, en marge d'une manifestation. Quelques instants plus tôt, ils avaient eux-mêmes fait preuve de violence envers les forces de l'ordre. Les explications de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Georgios et Chloé, respectivement cuisinier grec de 29 ans et graphiste française de 30 ans, seront bien présents tout à l'heure à leur procès procès où, selon leur avocat Maître Sabert, ils comptent à nouveau formuler des regrets pour leur geste. Ce fameux geste qui leur vaut aujourd'hui d'être poursuivis, même si aucun policier n'a déposé plainte contre eux, c'est d'avoir jeté sur les forces de l'ordre une carafe d'eau et un cendrier alors qu'ils étaient attablés en terrasse place de la Contrescarpe au moment où un rassemblement de manifestants du 1er mai dégénère. Pour leur défense, ils expliquent avoir été choqués par la charge des CRS et avoir eu cette réaction impulsive, sanguine et malheureuse. Mais ce qu'ils n'avaient pas imaginé, c'est que les images de leur interpellation musclée par Alexandre Benalla déclencheraient quelques mois plus tard une garde à vue et une enquête poussée qui a conduit les enquêteurs à interroger tout leur entourage, employeurs, familles, proches, à vérifier leur éventuel engagement politique ainsi que leur téléphonie sur plusieurs mois pour élucider la raison de leur présence intentionnelle ou fortuite ce jour-là place de la Contrescarpe. L'enquête conclut qu'ils sont bien des habitués du quartier. Eux se disent emportés dans un tourbillon qui les dépasse.
Chloé Triomphe pour Europe 1. Et puis on a eu envie ce matin de donner un coup de projecteur à cette bonne idée qu'a eu l'hôpital de Poitiers, car ce n'est pas toujours facile de rentrer chez soi après un long séjour de soins. Ce centre hospitalier a recréé dans ses murs une véritable maison, comme une maison ordinaire. Les patients peuvent ainsi apprendre à vivre avec leur maladie une fois rentrés chez eux. Reportage de François Coulon.
Pas de discours sur la réadaptation. Ici, vous êtes dans une vraie maison et vous expérimentez la nouvelle vie après une opération ou la découverte d'une maladie chronique. Le professeur Virginie Mijot à l'origine de la Villa Santé.
Je vais devoir manger sans sel. Ça m'empêche d'imaginer que ma nourriture va être savoureuse. On a un mur aromatique. Vous pouvez découvrir cette saveur. Ça redonne de la réassurance.
Une vraie chambre à coucher pour parler de sexualité. Une vraie salle de bain adaptée à la nouvelle vie. Au total, 11 pièces pour apprendre à revivre. Sophie, diabétique et atteinte d'un cancer.
On ne se sent pas dans un hôpital, on se sent comme chez soi. C'est rassurant. Le trouble de la blouse blanche n'est pas là. C'est révolutionnaire. Quand on s'adresse à un club de gym ou à un club de sport XY et que vous dites à l'animateur « je suis diabétique », oh là, c'est la panique parce que lui, il se dit « s'il y a un malaise ou quoi que ce soit, je suis pas capable de gérer ». Ici, on va aborder les choses d'une autre façon. Là, je reprends possession de mon corps. Ici, on va m'aider à rendre la maladie plus souple. Plus facile.
Investissement 5 millions d'euros, 3 000 patients attendus cette année. Poitiers, François Coulon, Europe.
Et puis on signale en football que l'Olympique Lyonnais s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Guingamp 2-1 et l'OL recevra Caen au prochain tour.
Merci, c'était le journal de François Geffrier. Et ôtez-moi d'un doute Céline, François Geffrier ne serait quand même pas le premier journaliste d'Europe 1 à ne pas essayer de vous draguer. Ça serait du jamais vu, je ne peux pas y croire, vous avez quand même dû le troubler.
Eh bien j'imagine que oui. Il était rouge.
Non, mais bien sûr, il est juste plus discret que Doucan, c'est tout. Allez Céline, on fait un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Céline, des nuages, de la pluie, mais heureusement des températures douces pour
oui,
ce week-end.
Oui, c'est vrai, on en profite. Hein. Le thermomètre repart à la baisse dès lundi. En attendant cet après-midi, il fera encore 11 degrés à Brest, à Paris, à La Rochelle, 14 à Toulon, 15 à Bordeaux et même 17 à Biarritz. Côté ciel, c'est faiblement pluvieux sur la moitié nord, ça va le rester toute la journée. Et le ciel sera bien couvert avec du vent pour les autres, temps sec, mais bien voilé toute la journée. Et puis, on aura des averses quand même plus soutenues entre la Bretagne et le Cotentin en milieu d'après-midi.
Merci Céline.
5h-7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui prend l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent au programme ce matin, notamment les esprits qui s'échauffent entre Rome et Paris suite à la visite polémique qu'a rendue un ministre italien à des Gilets jaunes. La France a rappelé son ambassadeur à Rome. On comprend l'agacement du gouvernement, mais face aux provocations des Italiens, espérons tout de même qu'Emmanuel Macron parvienne à mieux garder son calme que Gérard Junot dans les bronzés fonds du ski.
C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. Assez.
Il est 6h42. Et les 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Emiliano Sala a bien perdu la vie dans le crash de l'avion qui devait l'amener à Cardiff. Le corps repêché en mer a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin. Georgios et Chloé, deux jeunes qui s'en étaient pris à des policiers le 1er mai dernier, sont jugés aujourd'hui à Paris. Leur interpellation musclée ce jour-là avait été le point de départ de l'affaire Benalla. Enfin, les victoires de la musique ce soir à 21h. Les favoris sont Eddy de Pretto, Angèle ainsi que Chris, ex-Christine and the Queens. La cérémonie est diffusée en direct sur France 2.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous les attendiez fébrilement pour savoir quoi penser de l'actu. Les voiles, les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Trois éditorialistes qui, malgré leur CV impressionnant et leurs compétences hors normes, ont su rester simples. Comme Axel de Tarlet qui, durant la coupure pub, ne reste pas prostré dans les pages de The Economist, mais qui sait aussi prendre le temps de décompresser. Par exemple, en jouant au jeu dit de la chaise à roulettes qui avance et qui recule avec sa collègue, l'ingénue Céline Acosta.
Toi qui glisse extrêmement bien ces roulettes aussi. Non, Axel, je t'ai senti atterré, mais...
Ah non, pas du tout.
C'est qu'elles glissent bien les roulettes,
regarde. Ah, mais c'était ces roulettes.
Tu vois ?
Hop, je pars. Hop, je reviens.
Oh mon Dieu.
C'est rigolo.
Hilarant, en effet. Entre deux allers-retours tordants, vous nous parlerez de l'Airbus A380 qui va mal. Mais d'abord, honneur à la politique avec vous, Mickaël Darmon. Vive tension hein, entre la France et l'Italie. Paris a décidé de rappeler l'ambassadeur de France basé à Rome. Que signifie ce geste ?
Alors tout d'abord, il faut se rappeler, recevoir les gilets jaunes sans avertir personne, appeler avec eux à la démission du président Macron. Bref, Paris a tranché. Le Premier ministre italien Di Maio est allé beaucoup trop loin, le rappel de l'ambassadeur. Et donc un acte inédit dans l'histoire de l'Union européenne et le signe que la tension est élevée autour du président de la République. On explique cette décision pour bien signifier qu'il n'est pas question de valider des méthodes qui détériorent le climat en Europe où déjà la situation n'est pas bonne, dit-on. La réaction est donc institutionnelle et graduée. Il faut savoir qu'il y a deux semaines, l'ambassadrice italienne avait déjà été convoquée. Cette fois, c'est le représentant de la France rappelé pour consultation pour quelques jours. À Paris, on observait hier d'ailleurs que l'attitude du gouvernement italien a soulevé un tollé donc, en Italie et les deux dirigeants de la coalition ont baissé d'un ton. Et dans l'entourage présidentiel, bien sûr, on précise, pas question pour Emmanuel Macron de recevoir les dirigeants italiens. Le président français parle avec son homologue, pas avec les membres du gouvernement.
Et pour bien comprendre les raisons de la crise franco-italienne, il faut s'intéresser à la politique intérieure italienne.
Alors, Salvini de la Ligue du Nord nationaliste et Di Maio, donc du mouvement 5 étoiles, qui est un mélange de gauche et d'antisystème, eh bien, se livre à une guerre sans merci pour le pouvoir, alors qu'il dirige le pays en pleine coalition. Les deux sont rivés sur les sondages et l'Italie est plongée dans une ambiance de campagne électorale permanente avec des dossiers symboliques, par exemple l'avenir du TGV, donc Paris-Lyon-Turin. Salvini est une région dynamique dans le Nord et pour, Di Maio est contre. Les critiques en Italie sont de plus en plus fortes face à un gouvernement qui échoue économiquement, d'où le bouc émissaire tout trouvé pour les électeurs populistes, la France et son président. Salvini d'ailleurs l'avait déjà utilisé dès son arrivée au ministère de l'Intérieur avec les migrants. Aujourd'hui c'est Di Maio qui utilise les gilets jaunes pour refaire son retard dans les sondages. Le 10 février dimanche, des élections régionales importantes dans les Abruzzes vont encore être le théâtre d'un affrontement entre les deux rivaux. Salvini cache d'ailleurs à peine son intention de briser la coalition. Bref, on le comprend, au milieu de cette crise italo-italienne, eh bien la France a montré sa fermeté. Des deux côtés des Alpes, la campagne européenne a commencé.
Merci Mickaël Darmon pour cet éclairage politique. Axel de Tarlet, on parle économie avec vous. Airbus va-t-il stopper définitivement le programme A380 ? La question se pose après de nouvelles annulations de commandes.
Oui, l'A380, vous savez, ce très bel avion, cet exploit technique, commence à ressembler de plus en plus au Concorde. Donc un très bel avion, mais qui est un échec commercial. À peine 220 Airbus A380 sont en service dans le monde aujourd'hui, ce qui est très peu. Et puis surtout, les compagnies n'en veulent plus. Vous avez la compagnie australienne Qantas, qui vient d'annuler une commande de 8 avions. Vous avez Emirates également qui souhaite renoncer à ses A380. Finalement, elle voudrait des avions plus petits, des A350. Il y a très peu de lignes de commandes, ce qui fait que là, la production à Toulouse est au minimum. On est tombé à 8 avions par an, on ne peut pas faire moins.
Mais Axel, pourquoi cet échec ? On sait que l'avion est très apprécié, notamment des passagers ?
Oui, alors il est pas du tout apprécié des compagnies. Pourquoi ? En fait, Airbus a fait une erreur d'analyse, une erreur fondamentale. Airbus était perçu, contrairement à Boeing, qui n'a pas fait la même erreur, Airbus était persuadé que le trafic aérien, que les aéroports seraient vite saturés et qu'il faudrait de très gros avions pour faire de très gros volumes avec beaucoup de passagers sur ce qui serait devenu des autoroutes du ciel. Par exemple, Airbus était persuadé qu'on allait vers de très grosses lignes entre Paris et New York, qui seraient des grands hubs internationaux pour ensuite redistribuer sur le territoire. C'était une erreur d'analyse fondamentale, parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Eh bien, il s'est développé des vols de point à point entre les villes secondaires. Alors, je vais être concret. Si vous voulez aller à Chicago aujourd'hui, vous préférez prendre un vol direct, Paris-Chicago. Airbus était persuadé que vous feriez
Paris-New-York,
Paris-New-York et New York-Chicago. Bah non, les gens préfèrent ne pas faire de changement et prendre un petit avion. Du coup, ces gros avions sont devenus inutiles et ils sont compliqués à remplir quand vous vous retrouvez face à un mastodonte de avec 500 places, 600 places. Vous avez du mal à le remplir et donc les compagnies ne veulent plus de la 380.
Et donc Airbus va arrêter de produire la 380.
Bah écoutez, on est là à Toulouse, ils sont au minimum 6-8 avions. Ils espèrent que China, enfin qu'une compagnie chinoise, parce que là-bas quand même il y a du monde en Chine.
Mais parce qu'il pourrait être utile pour certaines compagnies, sur certaines destinations, non ? Enfin, je ne sais pas.
D'abord, cet avion coûte plus cher en termes de kérosène. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'il coûte plus cher aussi également pour les aéroports. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux étages, ce qui veut donc dire qu'il faut des aménagements spéciaux pour faire rentrer et sortir les passagers sur deux étages. Donc, vous voyez, il pose des problèmes à tout le monde. Le drame, c'est que et sauf les passagers qui sont ravis parce qu'il y a moi je l'ai jamais pris mais
il y a un
silence à bord qui en devient même gênant parce qu'il paraît qu'on entend ronfler son voisin et que donc ça vous empêche de dormir alors que dans les bons vieux dans les bonnes vieilles carlingues, le bruit du moteur et vous pouvez dormir tranquille
le bon vieux DC-3
sans être dérangé par les ronflements du voisin.
Merci Axel de Tarlé pour cette analyse économique. Et Varrock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Je vous propose de couvrir les ronflements éventuellement de vos voisins par de la musique, parce que c'est un week-end musical à la télé avec dès ce soir, on en parlait depuis ce matin, la 34e cérémonie des Victoires sur France 2. Motif de réjouissance, d'abord la présentatrice, en l'occurrence Daphné Burki et sa folie, et puis les lives parce que enfin des prestations en direct des artistes francophones avec des prix attribués par les professionnels, sauf pour un prix, celui de la chanson originale de l'année. C'est le public qui a voté sur le site des Victoires jusqu'à hier soir pour ces artistes-là.
Les chansons nommées sont
Je me dis que toi aussi parala, parala.
Je me dis que toi aussi, de Boulevard Désert.
Je me dis que toi aussi.
Midi sur Novembre, de Louane et Julien Doré. Dja Dja, de Aya Nakamura. Et Rêve Bizarre de Aurel San et Damso.
Un résultat ce soir pour savoir quelle chanson le public a choisi.
Rien qu'en suivant les réactions de Céline Dacosta, on peut deviner qui va avoir une victoire ou pas.
Qu'est-ce que vous avez choisi,
Selon la manière dont vous bougez, j'analyse et je peux vous dire qui va avoir la victoire. Je vous le dirai hors antenne.
De la musique, il en sera encore question. Samedi soir sur TF1, dès 21h, lancement de la saison 8 de The Voice, présenté par Nikos Aliagas. Le concours de chant avec Jennifer, Soprano, Mika et Julien Clerc en guise de coach. Et puis des voix. Alors, on va faire un petit jeu. Vous allez essayer de vous imaginer dans le fauteuil. Voilà, dans le fauteuil des jurys.
Vous êtes
dos. Écoutez, il n'y a rien à gagner. Vous êtes dos au candidat. Est-ce que vous êtes séduit par la prestation que vous allez entendre? Est-ce que vous êtes prêt à vous retourner sur cette chanson?
Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer.
Alors, Mathieu.
Il faut trouver qui c'est ?
Non, bien sûr, vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous retournez ou pas ?
Vous retournez ou pas ?
Je me retourne parce que
vous retournez. C'est
mon préféré.
Michael Darmon, on l'a perdu.
Michael Darmon, il ne sait pas de quoi
on parle.
Moi, j'aime bien parce que j'adore cette chanson de Gainsbourg et je trouve qu'elle est bien interprétée.
Oui, ça change. Moi,
j'adore Louane. J'aime bien. De façon cœur de pirate.
Voilà,
je me retourne toujours pour Louane, je l'adore.
Mais c'est pas Louane.
Bien tenté, Michael.
Alors, écoutez, cette première phase de l'émission qui est appelée Audition à l'aveugle est toute évidence la plus intéressante parce que c'est ludique et parce qu'évidemment, ça a découvert des talents et cette année encore. Certains candidats sont exceptionnels, comme cette jeune femme, on finit avec elle.
Something told me.
La James. Quelle classe.
It was over. When I saw you.
Kimber Rose.
Ah oui.
Mais non, mais
c'est
je ne sais pas
bien,
qui c'est pas des gens connus, c'est des gens qui viennent pour gagner.
Oui, ça ressemble un petit peu.
C'est vrai.
Merci.
Mais c'était la chanson d'État, j'aime ça. C'est The Voice à 21h sur TF1 demain.
Merci beaucoup Eva Rock. Merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi peu avant 7h moins le quart. Céline, un dernier mot.
Brésil.
Promesse d'un week-end mouvementé.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à son terme, heureusement. Comme on dit, c'est un mal pour un bien, puisque la matinale d'Europe 1 arrive sans Nikos Aliagas ce matin, mais avec l'excellent Bernard Poirette. Avant de partir, Nikos l'a bien briefé, lui a dit Bernard, la radio des années 2000, où on fait copain-copain avec l'auditeur, où on le prend par la main, c'est fini. Maintenant, c'est la mode des bootcamps. En radio, c'est pareil, l'auditeur, il a besoin d'être secoué, dépotrominé. Mais comment ça, s'est alors exclamé Bernard. Eh bien, comme ça, Coco, a répondu Nikos.
J'espère que vous vous réveillez tranquillement, on est là pour vous accompagner jusqu'à 9h. Attention. Ça commence maintenant, on sort du lit.
Debout les feignasses, Le débrief de la matinale avec l'adjudant Aliaga, ça arrive.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent comme chaque matin à céder la place à la matinale d'Europe 1, sauf que ce matin, Nikos Aliagas n'est pas là. Mais de Folé Gandros, du troisième pont de ce modeste yacht acheté à la famille Onassis pour une bouchée d'homos où il aime à relire Aristote en slip de bain Prada, je sais qu'il nous écoute. Il s'est même mis un rappel à 6h55, écoutez l'Otrokonos. Oui Bernard, l'Otrokonos, cher ami en grec, est le surnom qu'il m'a donné depuis que je relève ses bévues de la veille dans mon débrief. Pendant que Nikos se dort la nouille dans les Cyclades, qui vois-je donc arriver en studio pour le remplacer ce matin, les filles ? Une légende de la radio !
Thomas Soto !
Mais presque, Bernard Poiret. Bernard qui présente d'habitude la matinale week-end et qui là, moyennant certainement une coquette compensation financière car Bernard n'est pas homme à se faire rouler dans la farine, a accepté de démarrer le week-end dès le vendredi. Vous êtes chaud Bernard ?
Yes !
Allez, bilingue avec ça ! Impressive, my dear Poiret. Alors attention tout de même, en radio, l'expérience ne fait pas tout. Pour être à la hauteur de la tâche ce matin, il y a 2-3 trucs à savoir. 1. Vous êtes en direct, hein. Tout est en direct. Si jamais Anis Mbida savonne sur un lancement, vous ne pouvez pas l'engueuler et recommencer comme vous en avez l'habitude.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Anis Mbida, bonjour.
Bonjour Bernard.
Ah non, on ne trouve pas d'entrée.
Là, il faudra faire avec l'amateurisme des intervenants, Bernard. Hein. Direct oblige. Hein.
C'est vrai.
Deux, pour être en phase avec vos chroniqueurs, et notamment avec Laurent Cabrol, faudra enclencher le mode bigard. C'est le mode bigard qui permet d'être à l'affût du moindre jeu de mots ou référence salace qui peut intervenir à tout moment, surtout durant une météo de Laurent Cabrol.
Ce matin, pas d'inquiétude, hormis dans l'Est où il y a encore quelques gelées, mais partout ailleurs c'est du 5 à 7.
Le problème majeur du mode bigard étant qu'une fois enclenché, on ne sait pas trop comment le désactiver.
Non mais vous êtes très bon, avec Eva Rock et avec Céline Dacosta, vous nous mettez en bouche.
De bonne humeur, vous voulez dire.
Oui, c'est mieux. Autre conseil, Bernard, soyez vous-même. N'essayez pas de faire du Nikos. Voilà, souvent Nikos nous sort des trucs du style.
Ah, Tina Turner, c'est mon ami.
Bon, Bernard, je sais que vous êtes personnellement assez proche de Marcel Amont. Vous avez déjà cassé des accordéons dans des chambres d'hôtel ensemble. Inutile de fanfaronner avec ça. Hein. Laissons le name dropping à Nikos. Et concentrez-vous sur l'essentiel, l'info et l'animation. Une animation que la direction d'Europe 1 a voulu moderne, résolument tournée vers le futur. Alors, réussirez-vous à faire aussi moderne que les lancements de Nikos ?
Il est 8h du matin et vous écoutez Europe 1. Bon réveil à tous.
Ça va pas être facile, mais je crois en vous Bernard. Comme on dit, good morning and good luck.
Merci beaucoup Mathieu Noël.
Bonne
reposez-vous
journée,
bien.
Hein. Oui, je vais me coucher.
Bon week-end. Vous serez là lundi 5h.
Je serai là, évidemment, fidèle au poste.
Écoutez, sauf accident de parcours, mais on sait que vous serez là lundi 5h. Si vous n'êtes pas là, je vous remplacerai. C'est pas un problème.
Ça va,
salut, bon week-end à vous.